Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris dans notre amphithéâtre où on est très heureux de vous accueillir et bienvenue également aux internautes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Donc nous nous retrouvons pour notre conférence publique du premier mardi du mois ici à l'Institut d'astrophysique de Paris et c'est la dernière conférence de ce cycle avant la pause estivale et nous nous retrouverons, je vous donne le programme de nos prochaines conférences, le 6 septembre pour notre conférence de rentrée, nous recevrons Nicole Villemer qui nous parlera du Soleil et des premiers résultats de la sonde solaire de l'Agence spatiale européenne. Par la suite, le 4 octobre, nous aurons notre collègue de l'IAP, Clotilde L'Aigle, qui nous parlera probablement beaucoup de galaxies. Après, le 8 novembre, nous aurons un autre collègue de l'IAP, Michel Denfeld, qui nous parlera de Magellan. Ce sera les on finit de célébrer les 500 ans de la découverte du détroit par Magellan lors de son tour du monde. Il nous parlera donc de Magellan et notamment des nuages de Magellan. Et par la suite, le 6 décembre, nous recevrons David Elbaz, qui viendra nous parler notamment de ce qu'il a écrit dans son livre, La plus belle ruse de la lumière. Et aujourd'hui, nous avons également une conférence qui est reliée à un livre, puisque nous avons le plaisir de recevoir notre collègue Alain Riouadzello, qui est également chercheur ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc Alain, avant, tu as travaillé à l'Observatoire de Paris, de Genève, au CEA, et puis tu es ici à l'IAP depuis quelques années. Tes sujets de recherche sont donc l'étude du fond diffus de cosmologique, l'univers primordial, l'énergie sombre, la cosmologie et puis les trous noirs. Et donc, notamment, tu as fait beaucoup de simulations qui ont permis de visualiser à quoi ça pourrait ressembler quand on passait près d'un trou noir. Je les retourne parce qu'elles étaient à l'écran il y a un instant, mais elles n'y sont plus. Et donc, ça, tu es aussi beaucoup investi dans la diffusion de la culture scientifique. Donc, tu fais beaucoup de conférences, écris des articles vers le public. Intervient à la radio et écrit donc des livres. Donc, notamment, tu as écrit des livres sur les trous noirs. Ton dernier livre, il s'appelle Pourquoi E égale MC2. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un autre livre, d'un sujet autour d'un livre dans cette même collection, Pourquoi la Terre est ronde. Donc, je t'en prie.
Bien, merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler d'un sujet historiquement ancien et conceptuellement pas trop intimidant par rapport à tout ce qu'on peut faire en astrophysique, à savoir la forme de la Terre et ce qui a découlé de ces réflexions très anciennes sur la forme de la Terre. Alors, c'est une aventure qui a démarré il y a longtemps, qui est donc assez ancienne. Il y a plein de choses dont on pourrait parler. En une heure, je n'aurai pas le temps de tout parler, je m'en excuse. Et donc, je vais picorer dans certains épisodes de cette histoire. Alors, l'histoire de la forme de la Terre, c'est sans doute un questionnement assez ancien. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que on a beaucoup de récits oraux écrits pour certains. Qui sont à connotation religieuse, qui évoquent tous, dans des modalités différentes, chez des civilisations différentes, un récit cosmogonique, c'est-à-dire un récit de formation du monde, où est évoquée la place de la Terre dans l'univers et éventuellement des considérations sur la nature exacte de la Terre. Et au jeu du qui a dit le premier que la Terre était ronde, alors je dis la Terre est ronde, je devrais dire la Terre est sphérique, eh bien c'est une mention dans un texte pré-hindouiste qui s'appelle le Rig Veda, qui date environ du 15e siècle avant notre ère, donc environ 3500 ans d'ici, qui nous affirme que Purusha, qui est donc une divinité pré-hindouiste, a 1000 têtes, 1000 yeux, 1000 pieds, il a pétri la terre de ses 10 doigts et en a formé une boule au-dessus de laquelle il domine. Donc visiblement, on parle d'une terre qui est sphérique, mais je pense que vous serez d'accord pour dire que le texte en lui-même n'est pas vraiment très rigoureux, il ne démontre pas ce qu'il affirme, et donc il est difficile de savoir si ce texte-là a été écrit par des gens qui savaient ou qui avaient déjà compris que la terre était une sphère, ou s'il ne fait que refléter le désir de ces gens que la Terre soit une sphère. À la même époque, en fait, quand les gens évoquent la Terre, ils font des cartes d'un territoire qui est relativement restreint par rapport à l'étendue de la Terre, ce qui fait que dans ces cartes les plus anciennes, la forme globale de la Terre, les éventuelles limites de la Terre n'interviennent pas. La seule chose qui intervient, c'est de décrire pas trop mal l'environnement que l'on connaît. Donc au jeu des plus anciennes cartes, on en a deux qui sont assez connues. Il y a une carte babylonienne qui date d'environ 6e siècle avant notre ère. Alors la carte est extrêmement stylisée. Le point que vous voyez au centre ici représente la ville de Babylone. Les traits qui sont là représentent les deux grands fleuves de Mésopotamie, donc le Tigre et l'Euphrate, et sont indiqués sur ce cadran ici la direction dans laquelle se trouvent un certain nombre de villes de ce territoire. Mais tout ce qu'il y a au-delà des limites du monde connu de ces gens n'est pas évoqué. Et à la même époque, on a un des premiers géographes grecs qui s'appelle Hécaté de Milet, qui a fait une carte aujourd'hui disparue, mais à partir du texte qui accompagne la carte qui a survécu, on pense que la carte ressemblait à ça. Donc la carte du monde s'était centrée sur la Méditerranée, qui était bordée de trois continents, donc l'Europe au nord, l'Asie à l'est et l'Afrique au sud. Et puis ce qu'il y avait au-delà de ces continents, est-ce que l'Afrique se prolongeait indéfiniment au sud ou est-ce qu'elle était bordée d'un océan? On ne savait pas trop, mais ça n'avait pas d'importance puisqu'on n'allait jamais là-bas. Tout ça pour dire que la question de la forme de la Terre, c'est une question très différente de la question de la carte locale du territoire connu. Et c'est un problème qui est plus difficile puisque nous n'avons pas, pendant longtemps, on n'avait pas les moyens de parcourir entièrement la Terre et donc de constater, par exemple, qu'en allant en ligne droite, on revenait à notre point de départ. Ce qui fait que c'est essentiellement par le raisonnement que la forme de la Terre a été déduite. Et ce raisonnement-là, il a été produit par des savants grecs. Alors pourquoi c'est les Grecs qui ont réussi? Bon, c'est difficile à dire, mais disons que la civilisation grecque a été très florissante à une époque. Et ce que les Grecs aimaient par-dessus tout, c'était la géométrie. Et donc la question de la forme de la Terre étant un problème de géométrie, il n'est sans doute pas surprenant qu'ils aient réussi à trouver la réponse en premier. Donc l'illustration la plus connue qu'ils aimaient la géométrie, c'est que des textes postérieurs à l'époque de Platon disent que sur le bâtiment qui était l'académie de Platon était inscrit quelque chose du style « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Alors ça, c'est comme ça que ça a été traduit. En fait, le texte que l'on affirme avoir été présent sur ce bâtiment, c'est plutôt « interdit aux non-géomètres », comme on aurait pu mettre « interdit aux femmes » ou « interdit aux enfants », ce qui sont effectivement des inscriptions qu'on trouve sur certains temples. Donc le style de l'inscription est plausible, mais on n'a pas de preuve directe, c'est-à-dire que les premières mentions écrites que sur l'Académie de Platon étaient inscrites « interdit aux non-géomètres » sont postérieures de plusieurs siècles à l'époque de Platon. Toujours est-il que la géométrie occupait une place importante dans la pensée grecque, et la pensée grecque a également été capable d'aborder ce problème parce que un certain nombre de personnes ont compris que quand on voulait discuter de la philosophie, c'est-à-dire de la nature du monde, il fallait, dans la mesure du possible, le faire avec le moins de préjugés possible et avoir le plus d'objectivité. Donc l'absence de présupposés, les savants grecs avaient conscience que c'était quelque chose qui devait être présent, et dans l'histoire que je vais vous raconter, chaque fois en fait que les gens sont partis dans le décor, c'est précisément parce que cette ligne directrice-là n'a pas été respectée, consciemment ou pas. Alors, comment démontrer que la Terre est une sphère? Alors, c'est compliqué parce que, aujourd'hui, si vous demandez à des enfants comment on fait pour démontrer que la Terre est une sphère, ils vous disent tous, on prend une fusée, on s'éloigne suffisamment de la Terre, on prend le recul suffisant pour constater que c'est une sphère. Donc, les Grecs, évidemment, ils ne pouvaient pas faire ça, ils n'imaginaient pas qu'on pourrait le faire, donc c'était plus conceptuellement difficile d'imaginer qu'on pouvait dire quelque chose sur la forme globale, l'extension globale d'un objet dont on ne pouvait pas s'éloigner. Mais si on essaie d'identifier en fait trois étapes cruciales, ça s'est étalé sur trois siècles. Il y a d'abord eu Thalès, que vous avez peut-être adoré détester dans vos jeunes années au collège, qui a été, par le biais de son théorème, le premier à dire que finalement on pouvait dire quelque chose sur les objets sans forcément les mesurer directement. On n'a pas besoin d'appréhender un objet et de dominer un objet complètement pour pouvoir dire quelque chose sur celui-ci, ce qui est évidemment important s'agissant de la Terre. L'étape suivante vient un siècle plus tard avec le moins connu de la bande, qui est Anaxagore, qui démontre que la Lune est une sphère. Et ensuite, Aristote, alors ne démontre probablement pas lui-même, il compile un savoir qui s'est construit sans doute avant lui, qui démontre de façon extrêmement élégante et convaincante que la Terre est une sphère. Alors, la première étape donc dans cette histoire, c'est Thalès avec son fameux théorème. Alors, on sait très peu de choses sur Thalès. On sait qu'il est mort un dimanche après-midi. Mais ceci mis à part, on sait très peu de choses sur lui. On ne sait même pas s'il est l'auteur du théorème qui porte son nom. Théorème qui, qui, de façon très plausible, pourrait avoir été connu en Égypte avant Thalès. Thalès s'étant contenté, si j'ose dire, de ramener ce savoir en Grèce. En tout cas, Thalès donne plusieurs exemples de méthodes pour mesurer un objet que l'on ne peut pas facilement atteindre dans son intégralité. Alors, il donne plusieurs exemples. Je vous en donne un ici que, si vous êtes enseignant, vous pouvez faire avec vos élèves. Donc, quelle est la hauteur de l'obélisque de la Concorde ou du lampadaire qui est à côté de l'école ? Bon, vous ne pouvez pas grimper en haut de ce truc, c'est dangereux, mais il y a un moyen très simple de mesurer la hauteur de cet objet. Bah, vous prenez un enfant ou un adulte, c'est pas... ça n'a pas d'importance, vous mettez l'enfant le long de l'ombre de l'obélisque et vous bougez l'enfant jusqu'à ce que l'extrémité de l'ombre de l'enfant, donc l'extrémité de l'ombre de sa tête, soit confondue avec l'extrémité de l'ombre de l'obélisque. Et à ce moment-là, le triangle composé de l'enfant et de son ombre et celui composé de l'obélisque et de son ombre sont des triangles identiques à une transformation d'échelle près. Et donc, par le théorème de Thalès, vous savez que la taille de l'obélisque est égale à la taille de l'enfant, que vous avez tout loisir de mesurer, multipliée par le rapport de la taille des ombres que vous mesurez au sol sans difficulté. Donc on peut, grâce à un raisonnement géométrique, déterminer la hauteur d'objets qui serait trop haut pour qu'on puisse grimper au sommet ou trop inaccessible. Donc vous pouvez faire ça avec la tour Eiffel, avec des montagnes éventuellement, voilà, ça marche bien. Alors l'étape suivante, une fois qu'on a ça en tête et qu'on se dit bah, finalement j'ai pas besoin de faire le tour de la Terre ou de choses comme ça pour savoir, pour connaître sa forme, en tout cas je n'ai pas nécessairement besoin de faire le tour de la Terre pour constater qu'elle est sphérique, c'est Anaxagore qui va résoudre un problème plus simple que celui de la Terre, à savoir celui de la forme de la Lune. Alors c'est un problème plus simple parce que justement la Lune, on n'est pas le nez dessus, on la voit avec une certaine distance, donc on a un recul suffisant pour éventuellement dire quelque chose sur la Lune. Donc Anaxagore est le premier à dire que quand la Lune est en croissant, le croissant est toujours situé du côté du Soleil. Ce qui l'amène à déduire que, bien que l'impression visuelle quand on regarde la Lune, c'est qu'elle brille par elle-même, en fait, la Lune ne brille pas par elle-même, mais elle est éclairée par le Soleil. Et à partir du moment où vous avez en tête que la Lune est éclairée par le Soleil, eh bien, si la Lune était un disque plat, elle serait soit totalement éclairée, donc pleine Lune, soit pas du tout éclairée, nouvelle Lune. Mais du fait que vous avez des phases progressives entre la nouvelle Lune et la pleine Lune, ça vous dit que la partie de la Lune que vous voyez, le côté que vous voyez, est un côté bombé et la forme des croissants de Lune lors des différentes phases est compatible, dans la limite avec ce que l'on peut mesurer à l'œil, je dirais, avec une sphère qui est éclairée. Donc la moitié de la sphère est éclairée, l'autre moitié est dans l'ombre. Et selon l'angle que vous faites par rapport à la Lune et au Soleil, eh bien, vous voyez une partie plus ou moins importante du côté éclairé de la Lune. Donc Anaxagore dit, bon, peut-être que la Lune est une demi-sphère, on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais en tout cas, la partie de la Lune que l'on voit, c'est compatible avec un objet sphérique, ce qui est évidemment quelque chose qui plaît beaucoup aux savants grecs, puisqu'ils aiment la géométrie, et quand on aime la géométrie, on aime les formes géométriques les plus simples, donc le cercle à deux dimensions ou la sphère. Alors évidemment, on ne comprend pas tout. Par exemple, les savants grecs ne comprennent pas pourquoi quand on voit un fin croissant de Lune, on voit aussi en très sombre l'ensemble du disque. Comment ça se fait que si la Lune est éclairée par le Soleil, ben, on voit quand même le reste du disque qui devrait être dans l'ombre. Donc ça, ils ne comprennent pas, mais ils ont de très forts arguments qui indiquent que la Lune est une sphère. Si la Lune est une sphère, ça devient d'autant plus naturel d'imaginer que la Terre serait une sphère. Alors, est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, et donc celui qui va écrire la démonstration, c'est Aristote. Donc encore une fois, je ne suis pas certain du tout qu'il en soit l'auteur, mais c'est lui qui la grave sur le marbre. Et il fait remarquer la chose suivante, si on considère que la Lune est éclairée par le Soleil, alors il y a un phénomène qui est très facile à interpréter, c'est les éclipses de Lune. Donc une éclipse de Lune, ça se produit au moment de la pleine Lune, vous voyez le disque de la Lune totalement éclairé, et puis celui-ci se fait croquer progressivement, en un peu moins d'une heure, par on ne sait quoi, jusqu'à ce qu'il disparaisse presque complètement. Et donc Aristote dit, ben, quand c'est la pleine Lune, ça veut dire que on voit tout le côté éclairé de la Lune, donc la source de lumière est à l'exact opposé de l'objet éclairé, donc la Terre est grosso modo entre la Lune et le Soleil, et il doit bien arriver des fois où la Lune s'interpose exactement entre la Lune et le Soleil, et à ce moment-là, ben, la Lune va cesser d'être éclairée, puisqu'il y a quelque chose qui intercepte les rayons du Soleil avant d'arriver sur la Lune. Alors ce qui est intéressant dans ce contexte-là, ce n'est pas le moment où la Lune est totalement cachée, c'est le plus spectaculaire, mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le début de l'éclipse, donc le moment où la Lune disparaît progressivement dans l'ombre de la Terre, puisque ce que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que l'ombre de la Terre, ou autrement dit, la silhouette qu'a la Terre vue depuis un observateur qui serait sur la Lune. Alors, il se trouve que la Lune est plus petite que la Terre, donc la Lune ne révèle pas la totalité de l'ombre de la Terre, elle ne révèle qu'une partie limitée, entre 30 et 40%, je dirais. Mais ce que l'on constate, c'est que la portion de l'ombre de la Terre que l'on voit à chaque éclipse est systématiquement une portion de disque. Et donc ça, évidemment, sur une éclipse, ce n'est pas encore suffisant pour conclure. C'est-à-dire que la Terre pourrait être un cylindre qui est éclairé dans l'axe du cylindre et qui projetterait sur la Lune une ombre circulaire. Par contre, si vous regardez plusieurs éclipses, à des moments différents de la nuit, à des moments différents de l'année, la Lune va être éclipsée alors qu'elle est à des positions différentes du ciel, c'est-à-dire qu'elle est éclairée par le Soleil, alors que la Terre s'interpose suivant des directions différentes. Donc une éclipse de Lune, par exemple, en milieu de nuit, en été, la Lune est plein sud et basse sur l'horizon. Une éclipse de Lune, en milieu de nuit, en hiver, la Lune est plein sud, mais beaucoup plus haut sur l'horizon. Une éclipse de Lune, au début de la nuit, au printemps, la Lune est plein est. Et donc la Terre, à chaque fois, est éclairée dans des directions différentes. Et on constate qu'à chaque éclipse, quelle que soit l'heure du jour, enfin de la nuit en l'occurrence, et de l'année, c'est toujours une portion d'ombre circulaire qui se projette sur la Lune. Et un objet qui projette toujours une ombre circulaire, quelle que soit la forme de la Lune, à ce moment-là, le fait que la Lune soit bombée n'a aucune importance, un objet qui projette toujours une ombre circulaire, c'est un objet qui est sphérique. Donc Aristote dit, la Terre est une sphère, ce qui est un raisonnement astucieux, mais extrêmement élégant, puisque voilà, vous n'avez rien à faire d'autre que attendre les orteils en éventail sur votre chaise longue, vous attendez que vienne la prochaine éclipse, j'espère que vous avez vu la précédente, parce que la prochaine est dans pas mal de temps. Et quand vous observez une éclipse, bien vous vérifiez la prédiction que si la Terre est une sphère, alors la portion de la Terre qui fait ombre à la Lune est une portion doit toujours apparaître sous la forme d'un disque. Donc Aristote ne s'arrête pas là, il donne d'autres arguments également convaincants et peut-être plus faciles à vérifier, même s'ils sont des arguments plus locaux. Donc le plus connu, c'est celui du bateau qui, quand il s'éloigne, disparaît, non pas parce qu'il est de plus en plus petit, mais parce qu'il disparaît derrière la ligne d'horizon. Autrement dit, même si on ne voit pas que l'horizon est légèrement incurvé, on voit qu'il est incurvé dans le sens de la profondeur, puisque quand un bateau disparaît, la coque disparaît avant les voiles, avant que le bateau ne soit trop loin pour que nos yeux arrivent à distinguer quoi que ce soit. Et donc c'est vrai pour le marin qui est à quai, qui voit le bateau partir, mais c'est vrai dans l'autre sens, quand un bateau s'approche d'un port ou d'une île, eh bien on voit le sommet des montagnes de l'île avant de voir le port, par exemple. Donc ça, c'est un argument que, au moins localement, au niveau, disons, de la mer Égée, eh bien la surface de la mer est incurvée. Aristote donne un autre argument qui est un peu plus qui est à un peu plus grande échelle, qui est sur la hauteur des étoiles. Donc, quand vous regardez le ciel depuis Paris, l'ensemble de la voûte étoilée au cours de la nuit subit un mouvement de rotation autour d'une direction qui est en gros celle de l'étoile polaire. Vous pouvez mesurer que la hauteur de l'étoile polaire est de 48 degrés. Si vous allez dans le sud de la France à 42 degrés de latitude nord au lieu de 48, vous vous rendez compte que la hauteur de l'étoile polaire est de plus en plus basse. Si vous allez plus au nord en Scandinavie, vous vous rendez compte que la hauteur de l'étoile polaire est de plus en plus haute. Donc par l'aspect de la voûte étoilée au cours de la nuit, vous déduisez que, suivant un axe nord-sud, au moins, la Terre est incurvée. Donc tout ça est parfaitement cohérent, tout ça est parfaitement logique, et donc on a un faisceau de preuves assez différentes les unes des autres qui disent tous que la surface de la Terre est incurvée localement et globalement. Voilà. Et ce qui est assez joli, c'est que la démonstration d'Aristote, en fait, on n'a même pas besoin de la verbaliser. C'est-à-dire, sur un seul schéma, on peut la faire sentir. Et donc, alors de nombreux siècles après Aristote, il y a un savant du nom d'Appianus qui était en actuelle Allemagne, qui s'est été amusé à faire ses quatre dessins. Donc, il montre à gauche, à droite, le Soleil, au milieu de la Terre, et à gauche, la Lune. La Terre sphérique projette sur la Lune une ombre circulaire. Et pour illustrer que c'est la preuve que la Terre est une sphère, il montre d'autres exemples avec le Soleil et la Lune, et entre les deux, une Terre de forme biscornue qui devrait projeter une ombre biscornue à la surface de la Terre. Donc il est très pédagogique, il dit « si la Terre était carrée, l'ombre de celle-ci paraîtrait en cette même forme en l'éclipse. Si la Terre était triangulaire, l'ombre, dit celle, serait aussi en l'éclipse triangulaire. Et pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, si la Terre avait six angles, son ombre en l'éclipse de Lune serait de la même forme. » Voilà. Et donc, en fait, quand vous regardez l'original qui est écrit en latin, vous ne lisez pas ce texte-là, mais la vue de ces schémas vous montre, je dirais, sans explication, quelle est la nature de la démonstration. Donc c'est très astucieux, mais finalement, une fois qu'on a compris, c'est simple et limpide. Alors de nos jours, il y a plein d'autres moyens de vérifier que la Terre est une sphère. Alors il y en a un qui ne marchait pas bien dans l'Antiquité, mais qui marche très bien de nos jours, c'est le décalage horaire. Le fait que nous puissions communiquer instantanément avec des gens qui sont à d'autres endroits de la Terre nous permet de savoir que le Soleil ne se couche pas partout à la même heure. Donc évidemment, ça nous dit que la Terre est incurvée, cette fois suivant un axe est-ouest. Et puis, l'observation de nombreuses structures artificielles nous permet de constater que, quand vous avez plusieurs structures identiques qui se répètent à intervalles réguliers, comme par exemple une ligne électrique qui serait au-dessus d'un lac, vous n'avez pas de ligne de fuite comme on vous apprend aux Beaux-Arts, mais vous avez des courbes de fuite et que ces courbes de fuite se rejoignent toutes derrière l'horizon. Voilà, donc si vous aimez les éoliennes offshore, ce n'est pas le cas de tout le monde, vous avez, grâce au champ d'éolien offshore, aussi la preuve que la Terre est une sphère, puisque les éoliennes ne brassent pas de l'eau, elles brassent du vent. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire que je vous raconte, c'est que on peut considérer que la forme de la Terre, juste avant Aristote, c'était la plus grande question scientifique à résoudre. Et ce qui se passe souvent en science, c'est que la grande question a un jour une réponse, et ce qui était le grand défi scientifique de son époque devient presque instantanément une vérité établie au-delà de tout doute raisonnable, et donc les gens ne se reposent pas du tout sur leur laurier, mais ils vont se poser d'autres questions, tout aussi fondamentales que la précédente, mais qui ne peuvent se poser que parce qu'ils ont la réponse à la question, à la grande question précédente. Et donc c'est exactement ce qui va se passer ici, et ce qui va se passer ensuite plusieurs fois par la suite. Donc les deux questions que les gens vont se poser, ça va être d'abord quelle est sa taille, je vais en parler tout à l'heure, et une question peut-être encore plus fondamentale qui est pourquoi ? Ok, la Terre est une sphère, mais pourquoi ? Et donc Aristote va s'attaquer à ce problème de pourquoi la Terre est une sphère. Et il va croire avoir trouvé la réponse, mais cette fois, il va se planter complètement. Néanmoins, je vais quand même vous donner le raisonnement d'Aristote, parce que personne ne va réaliser qu'Aristote se trompe complètement, et ce raisonnement incorrect d'Aristote, qu'on peut considérer être probablement fait de bonne foi, va en fait influencer la pensée occidentale pendant 2000 ans, et finalement provoquer un certain retard, ou en tout cas une certaine stagnation du savoir, ou en tout cas de tout ce qui touche à la question de la place de la Terre dans l'univers. Alors que dit Aristote ? Alors, il n'a vraiment pas de chance, parce que la dernière partie de son raisonnement est juste, et le tout début est une remarque extrêmement pertinente, et dans les deux cas, très peu de gens auraient pu faire ces deux remarques. Le problème, c'est que tout ce qu'il y a dans l'intervalle est faux. Alors Aristote fait la remarque suivante. Si l'on observe les mouvements célestes, donc le mouvement de la Lune autour de la Terre, le mouvement du Soleil autour de la Terre, à moins que ce soit celui de la Terre autour du Soleil, mais peu importe, le mouvement des planètes, tout cela est d'une grande régularité, c'est-à-dire que dès le VIe siècle avant notre ère, les gens cataloguaient toutes les éclipses qu'ils observaient et avaient remarqué que les éclipses suivaient un cycle qui s'appelle le Saros, qui est d'environ 18 ans et 10 jours. Et que ceci se produisait depuis plusieurs siècles déjà du temps d'Aristote. Donc les mouvements des astres sont d'une parfaite régularité, dans la mesure de ce que l'on peut mesurer, je dirais, avec les moyens de l'époque. Par contre, Aristote remarque que les mouvements sur Terre, bah, ils finissent toujours par s'arrêter. Il n'y a pas de mouvement perpétuel. Vous lancez un caillou ou une bille par terre, ça finit par s'arrêter. Et donc Aristote a le génie de se dire, il y a quelque chose à tirer de cette observation-là, que les mouvements ne semblent pas être de même nature sur Terre et en dehors de la Terre. Et donc lui, il en déduit, et c'est là sa première erreur, que ça prouve que les lois physiques qui règnent sur Terre et au-delà de la Terre ne sont pas les mêmes. Et donc il va faire la distinction entre ce qu'il va appeler le monde sublunaire, c'est-à-dire pas plus loin que la Lune, et le monde supralunaire. Il dit qu'il y a deux jeux de lois. Dans le monde sublunaire, il y a quelque chose, et dans le monde supralunaire, c'est autrement. Ce monde sublunaire, il est centré sur nous, donc ça prouve que la Terre est un lieu particulier dans l'univers, puisque les lois physiques n'y sont pas les mêmes. Et donc, dans une interprétation géométrique, si vous avez un lieu particulier où il y a quelque chose de différent, c'est plutôt naturel, du point de vue d'Aristote, de dire que ce lieu, c'est forcément le centre. Donc, pour Aristote, en fait, le fait que les lois ne semblent pas être les mêmes sur Terre que dans l'espace est la preuve que la Terre est au centre de l'univers. Et comme la tendance que l'on observe sur les mouvements terrestres, c'est de s'arrêter, il considère que c'est la preuve que la Terre elle-même ne bouge pas. Donc la Terre est immobile et ne tourne même pas sur elle-même. L'ensemble de la voûte étoilée tourne autour de la Terre en 24 heures, et les planètes, la Lune et le Soleil, tournent autour de la Terre suivant un schéma un peu plus compliqué que la voûte étoilée. Et donc pourquoi dans ce contexte-là, la Terre est une sphère ? Eh bien, Aristote dit on sent quand même la pesanteur. Donc ça veut dire en fait que le centre de l'univers où se trouve la Terre attire à lui son environnement proche. Et donc il dit la forme de la Terre, elle est déterminée par le fait que l'ensemble des constituants qui forment la Terre a envie de minimiser sa distance au centre. Et donc si vous voulez minimiser ça, la forme qui permet d'avoir la distance moyenne, je dirais la plus faible des constituants de la Terre au centre, c'est forcément une sphère. Donc Aristote comprend que la sphère, c'est probablement lié à une histoire de minimisation, un problème d'optimisation de distance. Le problème, c'est que ça, c'est plus ou moins vrai, cette remarque-là, c'est vrai, mais tout le reste est faux. Donc en croyant démontrer pourquoi la Terre est une sphère, en fait, Aristote affirme que la Terre est immobile au centre de l'univers, ce qui évidemment n'est pas le cas et va envoyer les gens dans le décor pendant longtemps. Alors, la deuxième question qui se pose au moment où Aristote dit que la Terre est une sphère, c'est donc le pourquoi et quelle est la taille. Donc, Aristote donne dans ses écrits une estimation qui est que la circonférence de la Terre, donc évidemment, comme on vit sur la Terre et qu'on ne peut pas creuser, la quantité qui va mesurer la taille de la Terre, ça ne va pas être le diamètre, ça va être la circonférence. Et donc Aristote affirme, sans vraiment donner d'argument, que la circonférence de la Terre est de 400 000 stades égyptiens, c'est-à-dire environ 64 000 km. Donc ce n'est pas le bon chiffre, mais ce n'est pas non plus complètement faux. C'est faux d'un facteur, enfin de à peu près 50%. Ce qui veut probablement dire que Aristote comprend que ça prend pas beaucoup de temps de traverser la Méditerranée du nord au sud et de constater que la hauteur de l'étoile polaire à Alexandrie n'est pas la même qu'à Athènes, et que donc en quelques jours de navigation, on est capable de parcourir quelques degrés de latitude, et que donc l'ensemble de la circonférence de la Terre, ce n'est pas une distance démesurément grande. Donc le fait qu'il donne un chiffre commensurable avec ce que l'on peut parcourir avec un bateau dans une vie humaine, c'est sans doute lié à ça, mais il ne donne pas de démonstration. Celui qui va démontrer ou qui va mesurer sur le terrain la circonférence de la Terre, c'est, je pense, tout le monde a appris son nom à l'école, c'est Ératosthène. Et donc Ératosthène va procéder en comprenant qu'il est inutile de faire le tour complet de la Terre pour connaître sa circonférence. Par exemple, si vous mesurez la distance du pôle à l'équateur, vous faites un quart de la circonférence. Donc la totalité de la circonférence est 4 fois la distance du pôle à l'équateur. Si vous mesurez la distance de Bordeaux, qui est à 45 degrés de latitude à l'équateur, vous avez un huitième de la circonférence. Donc finalement, la mesure de la Terre, ça va être identifier 2 points dont on va démontrer par des mesures que la distance qui les sépare est une fraction identifiée de la totalité de la circonférence. Et ensuite, mesurer sur le terrain cette distance-là, qui peut être une distance assez grande, mais qui va être beaucoup moins grande que la circonférence. Donc lui, il va procéder de la façon suivante. Il va partir de la constatation que le Nil est un fleuve qui coule globalement suivant un axe nord-sud, donc suivant le même méridien. Il va dire, eh bien, si je prends 2 villes qui sont sur le Nil, donc il va y avoir Sienne au sud, c'est-à-dire l'actuelle ville d'Assouan, et Alexandrie au nord, eh bien, ces 2 villes sont sur le même méridien. Si je connais la latitude de ces 2 villes, ou en fait l'écart en latitude de ces 2 villes, je sais à quelle fraction d'arc de la circonférence totale ça correspond. Donc il fait des mesures en se basant sur l'ombre d'un obélisque, enfin de plusieurs obélisques à Assouan et Alexandrie, à un jour particulier, qui est le jour du solstice. Donc il se trouve que Assouan est sur le tropique, ce qui veut dire que le jour du solstice d'été, le soleil est exactement au zénith à midi, et que vous n'avez pas d'ombre projetée par un obélisque, et que ce même jour à Alexandrie, un obélisque projette une ombre relativement courte, et comparer la longueur de l'ombre avec la longueur de l'obélisque, que l'on peut mesurer grâce au théorème de Thalès, CF tout à l'heure, eh bien on peut déterminer que Alexandrie est environ 7,2 degrés plus au nord que Assouan. Donc Ératosthène dit 7,2 degrés, la vraie valeur c'est 7,12, donc dans son estimation de l'écart en latitude entre les 2 villes, il se trompe de 1%. Donc mesurer les latitudes dès cette époque, on sait assez bien faire. Et ensuite, il n'y a qu'à mesurer la distance entre Assouan et Alexandrie, c'est en gros la distance Paris-Marseille. Donc la distance Paris-Marseille, c'est en gros 800 km, donc c'est un peu intimidant. Néanmoins, si vous êtes capable de mesurer une distance de 10 km en une journée, mesurer 800 km, ça vous prend 3 mois. Ça va être long, ça va être fastidieux, ça va être un peu rébarbatif, mais on sent bien que si vous êtes capable de mesurer une distance de 10 km, en multipliant le process par 100, vous allez arriver à mesurer une distance de 800 km. Alors on ne sait pas exactement comment Ératosthène a procédé pour mesurer la distance entre Assouan et Alexandrie. La légende veut qu'il se soit basé sur le temps que mettaient des caravanes de chameaux pour relier les 2 villes et qu'il se soit contenté de mesurer la distance parcourue par une caravane en un jour. On multiplie par le nombre de jours et on a la distance totale. Plus vraisemblablement, il a utilisé des méthodes d'arpentage qui avaient déjà été développées. Le Nil entrait en crue tous les ans, donc tous les ans il fallait remettre les parcelles agricoles. Donc les gens avaient développé des techniques d'arpentage, peut-être avec des chaînes d'arpenteurs, donc une chaîne séparée de, mettons, 10 mètres de long, puis on plante l'extrémité de la chaîne quelque part, on plante le deuxième, puis une personne plante la première extrémité à l'opposé de la seconde, et on procède ainsi le nombre de fois qu'il faut pour compter les mètres, les hectomètres, les kilomètres. La L'autre méthode que connaissaient les Grecs, c'était les bématistes. Donc les bématistes, ça, c'est un mot qui vient du grec béma qui veut dire pas. Les bématistes, c'était des gens qui comptaient les pas. Donc si vous faites de la course à pied, vous savez que tant que vous courez sur un terrain qui est non accidenté, vous n'avez pas besoin d'un entraînement particulier pour avoir une foulée extrêmement régulière tant que vous courez, disons, moins de 20 km. Et donc si vous comptez le nombre de foulées que vous avez, ce qui est très rébarbatif, vous savez à peu près quelle distance vous parcourez une fois que vous avez bien évalué la longueur de votre foulée. Donc les bématistes procédaient peut-être comme ça, peut-être qu'ils avaient une petite cordelette entre leurs deux chevilles qui les assurait qu'ils avaient un pas exactement identique à chaque fois. En tout état de cause, même si ça a dû prendre des mois, voire peut-être plus d'une année, Ératosthène arrive à déterminer que la distance entre Sienne et Alexandrie est de 5000 stades égyptiens. La distance entre Sienne et Alexandrie, c'est 1/50 de la circonférence totale, donc la circonférence totale est de 250 000 stades égyptiens, que Ératosthène arrondit à 252 000 stades égyptiens, puisqu'à cette époque-là, on aime bien que les nombres soient divisibles non seulement par 10, mais aussi par 3, 6, 9, etc. Donc 252 000, ça a plus de diviseurs que 250 000. Donc Aristote dit, la circonférence de la Terre, c'est 252 000 stades égyptiens, sachant qu'aujourd'hui, on estime que le stade égyptien valait 157,5 mètres. Ce qui nous donne au final une circonférence estimée par Ératosthène de 39 690 km. Et là on dit qu'il était quand même fort parce que la vraie valeur c'est 40 000, presque exactement. Alors il était fort mais il a eu de la chance. Il a eu de la chance parce qu'en fait son raisonnement était basé sur le fait que Assouan et Alexandrie étaient sur le même méridien, ce qui n'est pas le cas en fait. Le Nil coule pas vraiment vers le nord mais plutôt vers le nord-nord-ouest. Ce qui fait que si on voulait être sur le même méridien, il faudrait qu'on soit à plus de 100 km, enfin, plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest d'Assouan. Ce qui fait que la distance au sol entre Assouan et Alexandrie n'est pas égale à la distance de l'arc de méridien que l'on veut calculer. Elle est 10% plus grande et visiblement, Ératosthène s'est planté de 10% quand il a mesuré cette distance. Et les deux 10% se sont compensés. Il avait du 10% en plus et du 10% en trop. Ce qui fait que les erreurs se compensent et il a un résultat fortuitement exact. Voilà, c'est ce qui fera rêver tous les étudiants les jours des examens, évidemment. Voilà. Bon, ceci dit, à l'époque, la notion d'incertitude de mesure, elle n'est pas vraiment... les gens ne l'ont pas vraiment en tête. Donc on prend cette mesure comme la valeur. On sait que c'est probablement imprécis, mais on n'est pas capable et on n'est pas dans l'état d'esprit d'essayer de vraiment estimer à combien de pourcents on est du résultat. Bon, parfait. On a fini. Ben non, on n'a pas fini, puisque en science, quand on a la réponse à une question, on se pose de nouvelles questions. Et alors... Il y en a une qui va être la chose suivante. Dans la démonstration que la Terre est une sphère, la Lune, en fait, c'est un outil. C'est juste un écran sur lequel on projette l'ombre de la Terre. Mais au bout d'un moment, les savants grecs se disent « Mais en fait, on manque d'ambition. La Lune est un outil, mais la Lune pourrait être un objet d'étude. » D'ailleurs, elle l'a été, puisqu'on a démontré que la Lune est une sphère. Et donc, les gens se disent « Est-ce qu'avec les éclipses, on peut dire quelque chose sur la Lune ?» Ben oui, on peut dire quelque chose sur la Lune. Alors c'est très facile de nos jours, vous faites une photo lors d'une éclipse de Lune, donc avec votre logiciel de dessin, vous trouvez le cercle qui épouse le mieux la forme du disque lunaire que vous ne voyez pas entièrement, et puis vous trouvez aussi le cercle qui épouse le mieux la forme du disque de l'ombre de la Terre. Et du coup, vous pouvez très bien mesurer le rapport de taille entre ces deux disques. Environ 2,5. Donc vous pouvez dire quelque chose entre la taille de la Lune par rapport à la Terre. Alors c'est très facile sur une photo. Alors, à l'époque des Grecs, on n'avait pas de photo. C'était pas facile de mesurer cette courbure-là et de la comparer à cette courbure-ci. Donc comment ont fait les Grecs pour résoudre ce problème? Ils disent, en gros, pendant l'éclipse, la Lune part ici de la gauche de l'écran. la Lune va progressivement se faire croquer par l'ombre de la Terre, donc je peux mesurer le temps que la Lune met pour entrer dans l'ombre. L'instant qui sépare le moment où elle commence à disparaître dans l'ombre et le moment où elle a complètement disparu. Ce temps-là, je peux le mesurer, c'est à peu près 3/4 d'heure, donc ça se mesure sans difficulté avec la technologie de l'époque, avec des sabliers, des clepsydres, ça ne présente aucune difficulté, et ça peut être mesuré précisément. Et puis on peut mesurer une autre durée, c'est le temps qui sépare le moment où la Lune commence à disparaître derrière l'ombre de la Terre et celui où elle commence à émerger. Et donc ça, c'est le temps qu'elle met pour parcourir l'ombre de la Terre, que vous pouvez comparer au temps que la Lune met pour disparaître complètement, c'est-à-dire pour parcourir sa circonférence. Et donc le rapport de ces deux durées, 3/4 d'heure par rapport à 2 heures, ben ça vous donne ce rapport de taille. Donc avec des outils de chronométrage extrêmement rudimentaires, vous pouvez dire quelque chose sur... Alors sur quoi ? On a envie de dire sur la taille de la Lune par rapport à la taille de la Terre, sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a un petit piège là-dedans. Il y a un petit piège dont on se rend compte quand on regarde une éclipse de soleil. Quand vous regardez une éclipse de soleil, vous voyez le disque de la Lune qui se met à cacher le disque du soleil, et vous constatez, ce que vous pouvez faire en dehors d'une éclipse, en gros, que le disque lunaire projeté sur le ciel, il a exactement la même taille que le disque solaire. Donc ça peut vouloir dire que le soleil est situé juste derrière la Lune et qu'il a la même taille, mais ça peut aussi dire qu'il est 2 fois plus loin et 2 fois plus gros, ou 10 fois plus loin et 10 fois plus gros, encore le théorème de Thalès qui a frappé. Et donc ça vous dit qu'en fait, si vous faites une vision de l'extérieur, si vous supposez que le soleil est gros, ce que l'on va vérifier a posteriori, eh bien, lors d'une éclipse de soleil, l'ombre projetée par la Lune n'est pas un cylindre, mais un cône qui se rétrécit. Et le fait que la Lune ait, vu depuis la Terre, la même taille apparente que le Soleil, nous dit que l'ombre de la Lune passe de 1 diamètre lunaire à presque rien quand on arrive sur la Terre. Si maintenant vous inversez la position de la Terre et de la Lune et que vous faites le même raisonnement lors d'une éclipse de Lune, eh bien ça vous dit que le cône d'ombre de la Terre passe de 1 diamètre terrestre au départ à 1 diamètre terrestre moins 1 diamètre lunaire quand on arrive sur la Lune. Autrement dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas le diamètre de la Terre, c'est le diamètre de la Terre moins le diamètre de la Lune. Donc si l'ombre de la Terre est 2,5 fois plus grosse que l'ombre de la Lune, la Terre est 3,5 fois plus grosse que l'ombre de la Lune. Voilà. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. D'accord ? Grec aimait la géométrie et il raisonnait correctement tant qu'il faisait de la géométrie. Donc, on sait que la Lune est 3,5 fois plus petite que la Terre, et ça c'est vrai quelle que soit la taille de la Terre. Donc on n'a même pas besoin d'Ératosthène pour démontrer que la Lune est 3,5 fois plus petite que la Terre, mais si on connaît la taille de la Terre, en kilomètres ou en stade égyptien, on connaît aussi la taille de la Lune. Mais alors, c'est pas fini, parce qu'on peut être encore plus ambitieux. Quand vous observez une éclipse de Lune, vous mesurez une durée qui est en gros le temps que la Lune met pour parcourir l'ombre de la Terre, ou modulo, donc les petites corrections que j'ai dit, le temps que la Lune met pour parcourir une distance égale au diamètre de la Terre. Mais il y a une autre durée que vous connaissez tous avec la Lune, c'est la durée de la lunaison, 29 jours et demi. Donc si vous savez que la Lune parcourt l'équivalent du diamètre de la Terre en un peu plus de 2 heures, et que sa circonférence, elle la parcourt en 29 jours et demi, vous divisez l'un par l'autre, et vous arrivez à la conclusion que la circonférence de l'orbite de la Lune vaut 180 fois le diamètre de la Terre. Simple chronométrage de la durée d'une éclipse, ça vous donne ce chiffre. La Lune parcourt 180 fois le diamètre de la Terre pendant qu'elle tourne autour de la Terre. Vous avez un cercle qui vaut 180 diamètres terrestres, vous divisez par pi pour passer au diamètre, vous redivisez par 2 pour passer au rayon, et donc vous en déduisez, par le simple chronométrage d'une éclipse, que la distance qui sépare la Terre de la Lune, c'est 30 fois le diamètre de la Terre. Et donc, il y a 2200 ans, les gens savaient que si un jour on pouvait s'éloigner de la Terre, on verrait ça. À ma droite, la Terre. À ma gauche, la Lune. La Terre est 3,5 fois plus grosse que la Lune. Et la distance qui sépare la Terre de la Lune, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est une 30aine de fois le diamètre de la Terre. Donc cette photo-là, évidemment, elle est récente. Ceci n'a jamais été montré, à ma connaissance, dans un schéma à l'époque des savants grecs, mais ils avaient dit explicitement que le système Terre-Lune, vu de loin, c'était ça. Les orteils en éventail, juste en chronométrant une éclipse. Donc c'est génial. Alors, c'est toujours pas fini. Bon, ok, on trouvait la distance Terre-Lune, cherchons la distance Terre-Soleil maintenant. Alors, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et c'est dommage, d'ailleurs. Alors, comment ils ont procédé ? Donc, celui qui a fait ça, c'est Aristarque de Samos. Aristarque de Samos a fait la remarque suivante. Bon, donc, vous avez le Soleil, la Terre. Je ne connais pas la distance Terre-Soleil, mais je sais que la Lune tourne autour de la Terre. Je suppose qu'elle tourne suivant une orbite circulaire. Ce n'est pas le cas, on le sait depuis l'Antiquité grecque. Donc, vous allez avoir, en fonction de où se trouve la Lune sur son orbite, différentes phases de la Lune. Quand la Lune est ici, tout le côté éclairé, il est côté Soleil et pas côté Terre, donc c'est la nouvelle Lune. Et puis à mesure que la Lune tourne, je vois une portion de plus en plus importante du côté éclairé de la Lune. Et en gros, au bout d'un quart de tour, je vois une demi-Lune. Au bout d'un demi-tour, c'est la pleine Lune. Au bout de trois quarts de tour, c'est le dernier quartier. Et je reviens à la pleine Lune. Sauf que Aristarque fait remarquer la chose suivante. Le moment exact où vous avez une demi-Lune, c'est le moment où, vu depuis la Terre, quand vous regardez dans la direction de la Lune, vous voyez la Lune qui est éclairée par le Soleil qui est à la perpendiculaire. Donc ça veut dire que le triangle formé par la Terre, le Soleil et la Lune est un triangle rectangle, mais qui est un triangle rectangle au niveau de la Lune. Ce qui veut dire que le moment du premier quartier, c'est un peu avant que la Lune ait fait un quart de tour complet. Elle a fait un peu moins d'un quart de tour pour passer de la nouvelle Lune au premier quartier, et un peu plus d'un quart de tour pour passer, du premier quartier à la pleine Lune. Et Aristarque fait la remarque que, modulo quelques formules de géométrie avec des sinus, des cosinus, je vous épargne le détail, si on arrive à mesurer l'écart au quart de tour entre la durée, l'écart au quart de période, entre la durée qui sépare la nouvelle Lune du premier quartier et la durée qui sépare le premier quartier de la pleine Lune, on peut en déterminer quelle est la distance Terre-Soleil exprimée en unité de la distance Terre-Lune que l'on a calculée tout à l'heure comme étant 30 diamètres terrestres. Alors Aristarque essaie de faire ça et il se rend compte qu'en fait, l'écart qui sépare la nouvelle Lune du premier quartier, c'est en gros pareil que l'écart qui sépare le premier quartier de la pleine Lune. Et donc il en déduit, ça prouve que au moment du premier quartier, on a fait presque un quart de tour, ce qui revient à dire que le Soleil est beaucoup plus loin de la Terre que ne l'est la Lune. Donc Aristarque est assez conservateur d'ailleurs dans les affirmations qu'il dit. Il dit tout ceci prouve que la distance qui sépare le Soleil de la Terre, c'est au moins 20 fois la distance qui sépare la Lune de la Terre. La distance qui sépare la Terre de la Lune, 30 diamètres terrestres, c'est-à-dire avec nos unités 400 000 km. Donc Aristarque, il y a 2300 ans, dit la distance Terre-Soleil, c'est au moins 20 fois 400 000 km, c'est-à-dire c'est au moins 8 millions de kilomètres. Donc dès l'Antiquité grecque, par le seul raisonnement et des mesures pas trop compliquées, on avait déjà une idée que les distances au-delà de la Terre, c'était très très grand par rapport à la Terre. Et là, on a une bifurcation historique qui ne s'est jamais produite. Et c'est très dommage. Parce que Aristarque fait la remarque suivante. Vu depuis la Terre, la Lune et le Soleil ont la même taille apparente, ce qui veut dire que le rapport de distance entre le Soleil et la Lune, par rapport à la Terre, c'est aussi le rapport des diamètres. Donc si le Soleil est au moins 20 fois plus éloigné que ne l'est la Lune, il est au moins 20 fois plus gros que la Lune. Or, la Lune est seulement 3,5 fois plus petite que la Terre. Donc, un objet qui est au moins 20 fois plus gros que la Lune, il est au moins 5,5 fois plus gros que la Terre. Et donc, Aristarque fait la remarque suivante. On observe que la Lune tourne autour de la Terre, ce qui n'a rien de surprenant que la petite Lune tourne autour de la Terre. Ok, pourquoi pas. Mais si le Soleil est 5 fois plus gros que la Terre, c'est peut-être un peu gonflé quand même de dire que le gros Soleil tourne autour de la Terre. Et donc Aristarque va proposer, mais sans forcément défendre bec et ongles cette idée, que l'idée de Aristote comme quoi la Terre est immobile et que tout tourne autour de la Terre, c'est quand même une idée un peu foireuse, parce que des objets aussi énormes que le Soleil s'enquiquinent à tourner autour de la Terre et non le contraire, c'est peut-être pas très logique. Mais, au jeu du prestige et de l'influence, Aristote et Aristarque, qui n'ont pas vécu à la même époque, hein, ils ne se sont jamais parlé, ils ne se sont jamais disputés, au niveau de l'éloquence, je dirais, c'est Aristote qui gagne. Et alors que Aristarque avait en fait tous les outils pour dire non, la Terre n'est pas au centre de l'univers, sa remarque parfaitement pertinente, qui n'était pas une preuve, mais qui était un argument quand même assez fort, il va jamais être pris en considération jusqu'à la Renaissance et le moment où cette question va être à nouveau sur le tapis. Donc je ne vais pas parler de la grande dispute qu'il y a eu, de la prise de conscience qui s'est faite entre la fin du Moyen-Âge et les 130 ans qui ont suivi, où finalement on s'est rendu compte que mettre la Terre au centre de l'univers, ça ne marchait pas, ou en tout cas ça n'était absolument pas convaincant. Je dirais simplement que Galilée a en fait démonté tous les arguments d'Aristote en faveur d'une Terre immobile au centre de l'univers. Il a démontré que tous ces arguments étaient faux, en fait. Malheureusement, il n'a pas eu la preuve observationnelle, expérimentale, que effectivement la Terre tournait autour du Soleil. Donc, par souci de simplicité, d'élégance, Galilée a défendu l'idée de l'héliocentrisme, c'est-à-dire c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Malheureusement, à son époque, il n'avait pas les moyens de le prouver, ce qui lui a valu les problèmes que l'on sait avec l'Église et le fait que l'Église a obtenu sa condamnation, non seulement parce qu'il l'avait contredite, mais qu'il l'avait contredite sans preuve, et donc Galilée a dû abjurer, c'est-à-dire s'excuser d'avoir dit une bêtise. Et donc Galilée n'a, de ce fait, jamais dit « et pourtant elle tourne », puisque s'il avait dit « et pourtant elle tourne » après avoir dit « oups, je me suis trompé en disant ça », il aurait été qualifié de relapse dans le vocabulaire de l'Inquisition, c'est-à-dire quelqu'un qui était retombé dans l'hérésie après avoir promis qu'il ne le ferait pas. Donc il a été réduit au silence, littéralement. Néanmoins, la suite de l'histoire lui a donné raison. Alors pourquoi Galilée a perdu son procès ? D'abord parce que le procès n'était pas équitable, mais aussi parce qu'il n'avait pas de preuves. Et pourquoi il n'avait pas de preuves ? Eh bien parce que c'est pas facile de démontrer que la Terre bouge. Pour Aristote, c'était très simple. Si la Terre se déplace dans l'univers, je saute, la Terre se déplace et je ne vais pas retomber à l'endroit où j'ai sauté. Donc Galilée dit, mais non, c'est complètement débile. Quand je saute, j'ai une vitesse verticale par rapport à la Terre, mais j'accompagne la Terre dans son mouvement, puisque au moment de mon impulsion, j'ai été entraîné par la Terre. Donc il n'est pas facile, par une mesure cinématique au niveau de la Terre, de vérifier si la Terre bouge ou pas. Et de ce fait, les preuves que la Terre est effectivement en mouvement, ça a attendu pour la première 100 ans après Galilée. Donc Galilée n'avait aucune chance de gagner son procès, puisqu'il n'avait aucune chance de fournir la preuve décisive. Alors la première preuve qui a été la bascule, je dirais, d'un point de vue expérimental, c'est ce qu'on appelle l'aberration de la lumière. Alors ce n'est pas la plus connue et la plus intuitive. L'aberration de la lumière, en fait, vous savez, vous connaissez tout ça avec la pluie. Quand vous êtes en voiture, à l'arrêt qu'il pleut, il n'y a pas de vent, disons, la pluie tombe à la verticale. Et puis, à mesure que vous commencez à rouler de plus en plus vite, la direction apparente de la pluie par rapport à la voiture s'incline, elle tombe de plus en plus inclinée à mesure que vous prenez de la vitesse. Et donc un jour, un scientifique anglais, elle n'a pas fait cette constatation avec la pluie mais avec le vent, il observait que la vitesse du vent semblait changer à mesure que le bateau qu'il prenait de la vitesse. Eh bien, il se rend compte qu'effectivement, la vitesse du vent par rapport au bateau n'est pas constante puisque la vitesse du bateau varie quand il prend de la vitesse. Et donc ce que ce monsieur Bradley dit, ce qui est vrai pour le vent est vrai pour la lumière. Autrement dit, si j'imagine que la Terre tourne autour du Soleil, eh bien au moment où, disons, je vais dans cette direction, si j'imagine qu'il y a une étoile qui est exactement à la verticale du plan de l'orbite de la Terre, eh bien cette étoile, du fait que la Terre bouge, elle ne va pas être exactement à la verticale, elle va apparaître légèrement devant. Et puis un quart de tour plus tard, elle ne va pas être à la verticale, mais elle va être légèrement devant, mais dans ma nouvelle direction. Autrement dit, la position apparente d'une étoile, quelle qu'elle soit, va légèrement varier au cours de l'année si la Terre se déplace autour du Soleil. Et donc, James Bradley va essayer de mesurer cet effet. C'est un effet qui est difficile à mesurer. C'est un effet dont l'amplitude n'est pas connue avec certitude parce qu'on ne connaît pas bien la distance Terre-Soleil, donc on ne sait pas à quelle vitesse la Terre se déplace, et on ne connaît pas bien la vitesse de la lumière. C'est le rapport de ces deux vitesses qui va nous dire de combien la position apparente des étoiles va légèrement changer. Mais il arrive à mesurer sur une étoile en particulier pour laquelle cette mesure est la plus facile, il arrive à mesurer que la position exacte de cette étoile n'est pas exactement la même au cours de l'année. Donc ça prouve que la Terre se déplace et que sa vitesse change de direction au cours du temps. Donc ça, c'est la première preuve que la Terre bouge, mais c'est 1729, c'est-à-dire quasiment un siècle après Galilée. La deuxième preuve historique est celle que Galilée cherchera en vain et qui était connue depuis les Grecs, c'est ce qu'on appelle l'effet de parallaxe. Donc l'effet de parallaxe, c'est le fait que quand vous roulez en voiture, eh bien, vous avez l'impression que le décor devant vous, sur le bord de la route, défile très vite, alors que les montagnes au loin ne défilent pas bien. Et que, à mesure que je me déplace, eh bien, si je suis en face de deux personnes dans l'auditoire, si je me déplace un peu, ces deux personnes ne seront plus alignées par rapport à moi. Et donc si la Terre se déplace, donc si je fais un mouvement de va-et-vient, eh bien, les personnes du premier rang vont bouger de façon apparente par rapport aux personnes du dernier rang. Donc ça, c'est un effet de parallaxe, mais c'est extrêmement difficile à mesurer parce qu'il se trouve que les étoiles sont extrêmement loin. C'est-à-dire que la distance qui sépare les étoiles proches de la Terre est beaucoup plus importante que la distance qui sépare la Terre du Soleil, ce qui fait que ce balancement des étoiles proches, que vous ne connaissez pas a priori, vous ne savez pas quelles sont les étoiles les plus proches de vous, déjà c'est la première difficulté, et en plus vous ne savez pas quelle va être l'amplitude de ce mouvement, et ça a été détecté pour la première fois dans les années 1830, fin des années 1830, par l'allemand Friedrich Bessel, qui là, lui, démontre d'un coup et d'un seul que la distance qui sépare les étoiles proches de la Terre, c'est des centaines de milliers de fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. Et donc du coup, Bessel augmente démesurément la taille de l'univers en résolvant une question qui taraudait les savants depuis l'époque grecque, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était les étoiles? Est-ce que les étoiles, c'est des petits points percés sur une toile derrière laquelle il y a une grande lumière, ou est-ce que c'est des objets finalement semblables au Soleil, mais dont la seule différence est d'être beaucoup plus loin, donc en apparence beaucoup moins lumineux. C'est en 1838 que l'on arrive à mesurer ça. Et Galilée avait espéré mesurer ça. En fait, dès l'époque grecque, les savants grecs avaient essayé de mesurer cet effet qu'on appelle la parallaxe. Ils ne l'avaient pas détecté, et donc ceux qui adhéraient au géocentrisme, ils voyaient la preuve que la Terre était immobile, puisqu'on ne voyait pas le balancement des étoiles au cours de l'année. Et ceux qui adhéraient à l'héliocentrisme disaient « c'est juste la preuve que les étoiles sont loin ». Donc un même fait expérimental était interprété de la façon qui arrangeait chacun des camps. Donc il n'était pas discriminant. Bon, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler. Je reviens au raisonnement faux d'Aristote, qui va être corrigé par Newton. Vous vous souvenez, Aristote disait le mouvement à la surface ou au voisinage de la Terre n'est pas de même nature que le mouvement au-delà de la Terre, donc les lois physiques ne sont pas les mêmes. En fait, Newton dit non, c'est pas ça. Les lois physiques sont universelles, mais les conditions physiques qui règnent ici et là-bas ne sont pas les mêmes. Sur Terre, il y a de l'atmosphère, donc il y a de l'air, même s'il est peu dense, il a une viscosité minimale, et ça suffit à freiner les objets. Donc ce qu'Aristote avait noté comme étant une remarque intéressante, qu'il avait déduit à tort comme étant la preuve que les lois physiques n'étaient pas les mêmes, eh bien, il est corrigé par Newton qui lui dit « c'est juste que les conditions physiques ne sont pas les mêmes ». Sur Terre, il y a une atmosphère, donc ça freine les mouvements, quoi qu'on fasse. Dans l'espace, on est dans le vide, et dans le vide, il n'y a pas de frottement, et donc il n'y a rien qui entrave le mouvement des objets. Donc l'argumentaire selon lequel ça prouve que la Terre est au centre de l'univers, ça ne marche pas. Mais Newton dit, pardon, ce qui fait que il y a des mouvements dans l'univers, c'est que les objets s'attirent du fait qu'ils ont une masse, donc ils ne peuvent pas rester immobiles les uns par rapport aux autres. Et si les objets s'attirent les uns les autres du fait qu'ils ont une masse, les constituants d'un objet donné s'attirent aussi les uns les autres du fait qu'ils ont une masse. Et donc si les constituants de la Terre s'agencent en une sphère, ce n'est pas parce qu'ils essaient de minimiser leur distance au centre de l'univers comme l'imaginait Aristote, mais c'est qu'ils essaient de minimiser leur distance mutuelle. Donc c'est un problème de minimisation, comme l'avait soupçonné Aristote, sauf que Aristote voyait ça, la minimisation, par rapport à une entité extérieure à la Terre, alors que Newton dit, ben non, tous les objets de la Terre s'attirent les uns les autres, donc ça va faire une sphère, tous les objets de la Lune s'attirent les uns les autres, donc ça va faire une sphère, tous les constituants du Soleil s'attirent les uns les autres, donc ça va être une sphère, et effectivement, tous les objets dans l'univers sont sphériques, à partir du moment où ils sont suffisamment gros, c'est-à-dire suffisamment gros pour que la force de gravité vainque les forces de cohésion, la rigidité des roches par exemple, et ainsi de suite. Et donc, il n'est pas facile de savoir à partir de quelle taille un objet prend une forme sphérique. L'exploration spatiale nous dit que tous les objets de 400 km au plus sont bien sphériques. Donc, un des plus petits objets très sphériques, c'est Mimas, satellite de Saturne, avec 400 km de diamètre. Par contre, quand vous regardez des objets plus petits comme Hyperion, qui a une forme de patate, quoi, en gros, dans sa plus grande longueur, c'est 360 km, mais dans sa plus petite, c'est 200. Donc la frontière entre un objet qui devient sphérique grâce à la force de gravitation, expérimentalement, on constate que c'est aux alentours de 400 km. Donc la Terre est ronde parce qu'elle est grosse. Voilà. D'une certaine façon, c'est ça la réponse ultime à cette question ancienne. Alors, je crois qu'il est l'heure de terminer, donc je vais encore parler 2 minutes pour vous dire donc que ce sont les Grecs qui ont prouvé que la Terre était ronde et ce sont les Français qui ont prouvé qu'elle n'était pas ronde. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Peu de temps après Galilée, qui est donc l'inventeur de la lunette astronomique, on constate qu'il y a quand même 2 planètes, on ne les voit pas aussi bien que ces clichés-là qui sont du télescope spatial, mais qu'il y a quand même 2 planètes qui ne sont pas si rondes que ça. Jupiter et surtout Saturne. Alors Jupiter est aplati d'environ 5%, c'est-à-dire que la distance qui sépare les deux pôles est 5% plus petite que le diamètre au niveau de l'équateur. Pour Saturne, c'est plutôt 10%. Alors pour Saturne, l'effet est plus prononcé, mais on le voit moins parce qu'on a le regard happé par les anneaux qui nous fait oublier de regarder si la planète est bien ronde ou pas. En fait, quand vous voyez les anneaux par la tranche, vous vous rendez compte effectivement que c'est plus large que haut. Donc il y a 2 planètes qui ne sont pas rondes, et Newton propose l'explication suivante. Un objet qui ne tourne pas sur lui-même va prendre une forme sphérique pour cette histoire de minimisation. Si l'objet tourne sur lui-même, il va à la fois être soumis à la force de gravitation et à la force centrifuge, qui fait que plus vous êtes loin de l'axe de rotation, plus vous êtes éjecté à l'extérieur, et donc faire tourner un objet rond, ça va avoir tendance à provoquer un renflement au niveau de l'équateur, un aplatissement au niveau des pôles. Donc Isaac Newton prédit que les planètes qui tournent sur elles-mêmes, c'est-à-dire probablement toutes les planètes, sont légèrement aplaties. Connaissant la taille, la masse et la rotation de la Terre, il prédit que la Terre est légèrement aplatie, de peut-être 0,4-0,3%, donc c'est un aplatissement qui est très faible, mais qui est d'une certaine façon relativement certain. Et ce sont des Français qui sont allés vérifier sur le terrain les prédictions de Newton, dans un contexte qui est assez amusant, parce qu'ils se sont un peu disputés le prestige de la découverte, et donc le grand organisateur de ça, c'était Maupertuis, qui a monté 2 expéditions pour mesurer la courbure de la Terre le plus près possible des pôles, donc en Laponie, le plus près possible de l'équateur, et pour constater que la courbure au niveau des pôles était moins prononcée que la courbure au niveau de l'équateur, sachant qu'on connaissait déjà la courbure à des latitudes intermédiaires qui était Paris. Et donc Maupertuis a été un filou parce qu'il s'est dit je vais envoyer mes collègues au Pérou pour qu'ils mesurent la courbure de la Terre à l'autre bout du monde, ça va leur prendre beaucoup de temps. Moi, pendant ce temps, je vais aller en Laponie parce que c'est plus près, c'est moins dangereux. Je vais faire mes mesures à la va-vite et comme ça, je reviendrai avant mes collègues du Pérou et je garderai pour moi seul le prestige de ma découverte. Et en fait, on voit très bien ça sur le portrait que Maupertuis s'est fait tirer une fois qu'il est revenu. Vous voyez que Maupertuis ne pose pas humblement à côté d'un globe terrestre, il domine le globe qu'il aplatit de sa main. D'ailleurs, le globe est exagérément aplati, hein, il est encore plus aplati que Saturne. Et donc Maupertuis a tout fait pour être l'homme qui a aplati le monde. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses dont je pourrais vous parler. La première preuve visuelle de la rotondité de la Terre grâce à des fusées V2 recyclées par les Allemands. Voilà. Il y a plein d'autres choses. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Voilà.
Merci beaucoup, Alain, pour tout ça. Alors, je vais prendre des questions, des commentaires dans le public. Et s'il y en a également sur le chat sur YouTube, pour ceux qui nous suivent en ligne, il y en a déjà quelques-unes que je vais te retranscrire. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions, des commentaires, d'autres questions, d'autres commentaires sur le chat. Y a-t-il déjà des questions dans la salle? Oui, une.
Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Est-ce que d'autres civilisations se sont posées les mêmes questions? En Chine, en Amérique du Sud, en Afrique, et ont découvert ou progressé dans la connaissance de la même manière.
Alors, c'est probable, mais on n'a pas beaucoup de traces écrites chez de nombreuses civilisations, donc on ne sait qu'une petite partie de ce qu'ils savaient. Mais on sait par exemple que, alors je ne sais jamais si c'est les Mayas ou les Aztèques, mais avaient mesuré la durée de la lunaison avec une précision de l'ordre de la seconde, ce qui est une précision tout à fait remarquable. Donc une lunaison, vous la mesurez avec une précision, mettons, de une heure, si vous arrivez vraiment à voir le moment exact de la pleine lune. Sur deux lunaisons, ben, vous avez toujours une précision de une heure, mais vous divisez par deux, donc vous avez une demi-heure. Donc mesurer la durée de X lunaisons, ça vous permet d'avoir une précision sur la mesure qui va aller en décroissant, enfin, qui va être de mieux en mieux. Des questions aussi sophistiquées que mesurer la distance Terre-Lune, etc., je pense que les Grecs sont les seuls à l'avoir fait, ou en tout cas, les gens qui l'ont fait plus tard ont été potentiellement influencés par les Grecs. Mais il faut bien remarquer que l'Europe, pendant tout le Moyen-Âge, a perdu une grande partie de ce savoir. Et donc, en partie à cause d'Aristote. Donc, Aristote, lui, pour lui, le monde céleste était parfait, puisqu'il n'évoluait pas. Donc, le monde céleste était celui des dieux, il était forcément parfait, donc immuable. Et donc, le fait qu'il y avait des taches à la surface du soleil était connu de savants antérieurement à Aristote et a été totalement effacé de la mémoire des savants grecs et encore plus des savants européens pendant tout le Moyen-Âge. Alors que l'observation des taches solaires se faisait de façon tout à fait routinière en Chine depuis le IIe siècle avant notre ère et s'est fait jusqu'à la fin du XVIe siècle, au moment où l'astronomie chinoise a périclité, quand ils ont été en contact, et c'est très ironique, avec les jésuites européens qui, à nouveau, avaient repris le flambeau finalement avec toutes les révolutions scientifiques de la Renaissance. Et à ce moment-là, l'astronomie chinoise a périclité. Mais donc, les gens n'observaient pas les mêmes choses. Ils n'observaient pas avec les mêmes outils, sans doute. Ils n'observaient pas dans le même but. Et ils n'observaient pas avec les mêmes biais cognitifs, je dirais. Donc, si vous avez remarqué qu'il y a des taches à la surface du Soleil, vous allez bricoler un filtre pour observer en continu le Soleil pour voir s'il y a des taches. Si, comme Aristote, vous êtes convaincu que l'essieu étant un monde parfait, il ne peut pas y avoir d'irrégularité à la surface du Soleil, vous n'allez même pas chercher ça, vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est difficile de comparer le savoir et le savoir-faire des civilisations. Mais en Chine, pour les Chinois, le ciel, ce n'était pas le monde des dieux, c'était un reflet de ce qui se passait sur Terre. Donc un événement transitoire pouvait se passer dans le ciel, il était probablement annonciateur d'un événement terrestre. Donc ils observaient avec beaucoup d'assiduité le ciel, dans une perspective plutôt astrologique. Mais comme c'était important socialement, ces prédictions astrologiques, ils étaient des observateurs extrêmement méticuleux. Au point que les observations de certains astronomes chinois motivés par des considérations astrologiques sont très utiles aujourd'hui pour certains phénomènes transitoires particulièrement intéressants comme des explosions d'étoiles.
Alors il y a une question là sur le chat qui était... À quel moment a-t-on remarqué que l'orientation du croissant de lune changeait suivant qu'on bougeait de région, ce qui donne également des informations sur la rotondité de la Terre? ce que tu sais.
Alors oui, donc si vous allez sous les tropiques ou à l'équateur, si vous observez un croissant de lune au moment du coucher, le croissant de lune est en berceau, alors que sous nos latitudes, le croissant de lune est un peu incliné, enfin, c'est plutôt un C qu'un U. À quel moment ceci a été observé, ça je ne sais pas. Les Grecs le savaient probablement, puisque dans l'Antiquité grecque, le monde grec s'étendait jusqu'au sud de l'Égypte. Hein, la ville la plus au sud connue des Grecs, c'était Méroé, donc dans l'actuel Soudan, à 16 degrés de latitude nord. Donc je pense qu'un coucher de croissant de lune à cette époque-là vous montre vraiment un croissant en U. Donc ça faisait sans doute partie des arguments, c'était un argument supplémentaire, mais je ne sais pas à quel point il a été décisif. Mais oui, je précise qu'à partir du moment où les savants grecs ont compris que la Terre était ronde, ils ont fait toute une série de déductions remarquables, notamment le fait qu'ils ont compris que le climat allait dépendre de la latitude. Quand vous êtes proche du pôle Nord, ben, le soleil est toujours rasant, donc il fait très froid, donc il y a une zone polaire. À l'équateur, le soleil est très haut pendant la journée, donc il fait très chaud. Ils avaient même imaginé, certains savants grecs, que en fait, les pôles étaient inhabitables car trop froid, ce qui était vrai, et l'équateur était peut-être inhabitable car trop chaud. Ils avaient imaginé qu'il y avait peut-être deux humanités dans les régions tempérées nord et sud qui n'avaient jamais eu l'occasion de communiquer parce qu'il y avait une barrière climatique infranchissable. Donc ils avaient beaucoup élaboré là-dessus et avaient vérifié un certain nombre de choses. Par exemple, ils avaient prédit le soleil de minuit qui a été observé par le marin Pythéas, quand il a fait son expédition où il a longé les côtes d'Europe du Nord jusque probablement à la Scandinavie, il rapporte avoir vu le soleil de minuit, qui était une prédiction de ce qu'on avait quand on avait une Terre ronde et un axe de rotation de la Terre qui était incliné par rapport à son plan de révolution autour du Soleil.
Merci. Y a-t-il d'autres questions, commentaires dans la salle ? Non, alors j'en ai d'autres sur le chat. Tu as parlé des mesures d'éclipse, enfin de la durée d'une éclipse de lune et que ça avait été utilisé donc pour mesurer les tailles, les distances dans le système solaire. Mais ceci dit, les durées des éclipses, il y en a un des internautes qui me dit, mais elles varient, c'est plus ou moins long, plus ou moins court. Oui. Donc à quoi c'est dû? Et puis est-ce que les Grecs s'étaient rendus compte que ça variait et avaient des tentatives d'explication?
Alors, en fait, ils avaient compris que si la Lune passe en plein milieu de l'ombre de la Terre, l'éclipse va être très longue, alors que si la Lune rate un peu l'ombre de la Terre, bah, l'éclipse ne va peut-être même pas être totale, mais même si elle est totale, elle va être beaucoup plus courte. Donc il faut, pour estimer la taille relative entre la Terre et la Lune, observer une éclipse qui est centrale, ce qui ne se produit pas souvent, et donc c'était... Je ne suis pas sûr qu'à l'époque grecque, on était capable de prédire si une éclipse allait être centrale ou pas. Les Grecs connaissaient la périodicité des éclipses, ils connaissaient le Saros, ils savaient que s'il y avait une éclipse un jour, 18 ans et 10 ou 12 jours plus tard, il y aurait une autre éclipse. Donc ils savaient à peu près à quel moment il était intéressant de regarder et à quelle lunaison il y avait probablement peu d'espoir qu'il y ait quoi que ce soit. Prédire la centralité ou non d'une éclipse, c'est comme prédire qu'une éclipse de soleil sera totale ou pas, ou annulaire ou pas. Je pense que c'était encore un peu tôt à l'époque.
Bien. Et alors, toujours pas de questions dans le public ? J'insiste. Mais non, toujours pas. Alors, je continue avec Stéphane. Déjà, il y a des commentaires sur le chat pour nous faire réaliser, mais enfin... On le réalise tous, mais c'est bien de leur dire que tous ces résultats-là, dans l'Antiquité, sont faits quand même avec des instruments de mesure extrêmement rudimentaires par rapport à ce dont on dispose maintenant. Oui. Et en effet, c'est très impressionnant.
Oui, oui. On a toujours une dépendance à la technologie qui nous inhibe. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, le premier réflexe quand on se dit, mais comment ils faisaient sans laser, sans GPS pour faire tout ce qu'ils ont fait ? Mesurer la distance entre Paris-Marseille, qui est de 800 km, juste en comptant le nombre de pas qu'il faut, donc les 800, les 8 millions de pas qu'il faut faire, ou les 800 000 pas qu'il faut faire entre Paris et Marseille, c'est assez effrayant comme perspective. Mais en fait, il faut juste avoir du temps. Voilà. Et si le défi scientifique est à la hauteur du temps que ça vous coûte, vous le faites, mais il faut bien voir qu'à l'inverse, les Grecs se sont jamais dit « Oh, bah zut, j'ai pas de fusée, donc je peux pas prendre de recul et je peux pas savoir quelle est la forme de la Terre. » Donc ils se sont dit « Bah, vu qu'il est impossible de quitter la surface de la Terre, par quel moyen je peux quand même déterminer sa forme ?» Donc ils n'avaient pas la frustration d'une technologie dont ils n'imaginaient même pas qu'elle existerait un jour. Donc on est plus inhibé parce qu'on sait ce qu'ils perdaient que eux étaient frustrés puisqu'ils ne savaient pas ce qu'ils perdaient.
Pas des antiques qui ont fantasmé, imaginé, prédit des voyages interplanétaires ? Est-ce que tu sais à quel moment on a commencé à envisager ça ?
Alors, il y a, je ne sais plus qui c'est, l'idée que la vie puisse avoir été apportée depuis l'espace, donc ce qu'on appelle la panspermie, ça date de l'Antiquité grecque. J'ai un trou, je ne sais plus qui a fait ça. Donc l'idée que, à défaut de gens, que des objets puissent voyager sur de grandes distances dans l'espace, ça a existé. Que on puisse un jour voyager, déjà qu'on puisse voler, c'était inimaginable, hein, c'est une mythe d'Icare.
Oui, les oiseaux volaient quand même.
Oui, mais... Non, je ne sais pas à quel moment... Je sais qu'à l'époque de la Révolution française, il y avait déjà des romans de SF où des gens voyageaient sur d'autres planètes et ils voyaient une humanité différente, mais pas si différente que ça, et ils en tiraient donnaient des leçons finalement à ses contemporains en disant « regardez ce qu'on pourrait être et ce qu'on n'est pas ». Mais c'est ce genre d'anticipation, je pense que, dans ce que j'ai en tête, je crois que c'est assez tardif.
Ouais, je ne sais pas non plus.
Je ne suis pas fan de SF, donc je peux vous aider là-dessus.
Et peut-être aussi un commentaire sur Galilée. Quand tu dis que Galilée n'avait pas de preuve, il me semble qu'il avait une preuve tout de même, qui était que le modèle géocentrique affirmait de manière assez forte que tout tournait autour de la Terre. Galilée avait une preuve que tout ne tournait pas autour de la Terre, puisqu'il voyait les quatre satellites de Galilée de Jupiter qui tournaient autour de Jupiter. Oui. Ce qui était quand même un argument assez fort, me semble-t-il.
Absolument, absolument. En fait, pour Aristote, les cieux étaient parfaits. Donc, le Soleil était une sphère uniforme, la Lune était une sphère parfaite. Quand Galilée observe le Soleil, il voit qu'il y a des taches. Quand il observe la Lune, il voit qu'il y a des cratères, donc il y a des montagnes lunaires dont il estime correctement la hauteur à 6000 mètres, je crois, c'est-à-dire plus haut que les plus hautes montagnes connues de son temps. Donc la perfection des cieux est illusoire. Avant Galilée, il y a Kepler et Tycho Brahe qui ont observé des supernovas, c'est-à-dire des étoiles qui explosaient. Donc pour eux, c'était des étoiles nouvelles qui s'allumaient, puisqu'on ne voyait pas l'étoile avant l'explosion, on la voyait au moment de l'explosion. Mais ça prouvait que les cieux n'étaient pas immuables. Et Galilée observe effectivement que tout ne tourne pas autour de la Terre, puisque Jupiter a des satellites. Donc c'est en ça que j'ai dit que tous les arguments invoqués par Aristote pour justifier le géocentrisme ont volé en éclats grâce à la lunette astronomique de Galilée. Néanmoins, Aristote pouvait avoir le bon résultat à partir d'un raisonnement complètement faux. Résultat fortuitement exact, ça arrive. Lui n'avait pas la preuve que la Terre bougeait effectivement. Il disait, si un jour j'observe des parallaxes, j'ai une preuve, mais ces parallaxes, il ne les a pas observés, et on sait maintenant qu'il n'avait aucune chance de les observer. Donc ce que Galilée avait imaginé, c'est que les marées étaient dues au fait que quand la Terre se déplaçait, en fait, les masses océaniques réagissaient un peu avec retard au mouvement de la Terre, et que les marées étaient la preuve que ça blou-blottait un peu parce que la Terre bougeait. Sauf que l'Église elle-même s'est fait un plaisir de lui dire que ça ne marchait pas, parce que si c'était le cas, les marées seraient synchronisées sur la journée. Or, les marées sont synchronisées sur la Lune. Vous avez deux marées qui ne sont pas espacées d'ailleurs de 12 heures, mais de 12h25. Donc c'est la Lune qui est le moteur des marées, quelle que soit l'origine exacte du phénomène, et non la rotation de la Terre combinée à son mouvement. Donc l'argument de Galilée, en fait, ses contemporains lui avaient dit, le seul argument de Galilée était faux, et ses contemporains lui avaient dit de ne pas l'utiliser, puisque justement lors de son procès, ça le desservirait, puisque l'Église aurait aucune difficulté à montrer que son argument-là était faux. Donc l'Église avait un atout maître, c'est que Galilée n'avait pas de preuves. Il avait une image beaucoup plus convaincante, beaucoup plus élégante que le discours géocentrique, mais il n'avait pas de preuves. Et dans un procès où vous êtes moins fort que l'adversaire, si vous n'avez pas de preuves, on vous dit dommage pour vous. Voilà.
Je crois que j'ai une dernière question sur Internet qui est un peu une question piège. Alors peut-être avant de te la poser, est-ce qu'il y a une autre dernière question dans l'amphithéâtre ? J'essaye encore, j'ai tenté ma chance. Oui, deux même. Donc, la question piège, c'est un peu après.
Merci tout d'abord pour cette conférence. Je voulais revenir du coup sur le procès de Galilée. Vous avez dit, donc, du coup, Est-ce que c'est cette image, en fait, c'est ce procès de Galilée qui crée ce cliché aujourd'hui, un peu dans l'histoire, dans la tête des gens, que finalement, la rotondité, le fait que la Terre était ronde n'était pas accepté au Moyen-Âge. On a souvent cette idée-là que finalement, la Terre était plate et que ça, c'est censé démontrer l'obscurantisme religieux à l'époque. Mais finalement, il n'y a qu'une minorité de textes qui mettent en cause cela. Et finalement, Saint Thomas d'Aquin, par exemple, a prouvé que la Terre était une sphère.
Oui, oui. Non, en fait, il y a une confusion. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à la France ou pas, mais tout le monde sait que Galilée, c'est le gentil scientifique qui s'est fait embêter par les méchants religieux. Et cet élément-là et l'injustice patente du procès est telle qu'on en oublie le pourquoi. Et donc, effectivement, dans l'imaginaire collectif, Galilée, c'est une histoire de la forme de la Terre et non du mouvement. Or, c'est complètement idiot, puisque un siècle avant Galilée, l'expédition de Magellan avait fait le tour du monde. Donc, quand bien même on aurait oublié au Moyen-Âge que la Terre était ronde, Magellan aurait prouvé que c'était le cas. Mais en fait, c'est le contraire. Magellan a fait le tour du monde parce qu'il savait que c'était rond et qu'il disait que c'était peut-être une route commerciale intéressante que de relier le Japon par la mer plutôt que par la terre en traversant ça. Donc je ne sais pas pourquoi on a en tête que Galilée est lié à ça. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que plusieurs penseurs de la Renaissance, pour dire la Renaissance c'est génial et le Moyen-Âge c'était nul, ils ont un peu... ternit le bilan des connaissances au Moyen-Âge. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de progrès pendant tout le Moyen-Âge. Depuis l'Antiquité grecque, il n'y a quasiment eu aucun progrès en astronomie. Il y a même eu une régression. On a oublié qu'il y avait des taches à la surface du Soleil. Mais ça n'a pas été au point qu'on ait oublié que la Terre était ronde. Et c'est plus les savants de la Renaissance pour montrer à quel point la Renaissance était vraiment une période faste par rapport au Moyen-Âge, qui, pour enjoliver leur bilan, ont fait ce que font tous les politiques, ils dévalorisent le bilan du gars qui était avant, en fait. Et ils l'ont tellement bien fait qu'effectivement, cette idée a infusé, et il y a une confusion. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un problème, les enseignants n'insistent pas assez là-dessus. Moi, je me souviens que j'ai plus entendu parler du procès de Galilée en cours d'histoire qu'en cours de physique. Donc, finalement, c'est peut-être que, voilà, la façon dont c'est enseigné, on ne présente pas les choses de la meilleure façon qui évite d'éviter. Qui évite les confusions. Mais quand on dit qu'on sait que la Terre est ronde, c'est les érudits savaient que, mais il n'y a aucun, c'était très peu de gens, même pas 1% de la population, mais parmi les érudits, personne ne se trompait à ce sujet-là, et personne ne s'est trompé pendant tout le Moyen-Âge, ça c'est certain.
Il y avait une autre question, je crois, par là, oui ? Ou commentaire ?
Oui, juste un commentaire. Je trouve que c'est bien sympathique de terminer le cycle de conférences par ça. En même temps, je trouve que, enfin moi, la réflexion que je me fais, c'est que votre conférence, c'est un retour sur l'histoire des découvertes scientifiques. Et ce qui est formidable, c'est qu'on réfléchissait à l'époque. Et je rebondis sur la remarque que vous avez faite, enfin, quelqu'un qui disait pourquoi, comment on fait, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça. Mais je pense qu'on réfléchissait beaucoup, on observait beaucoup. On en tirait des conclusions. C'est toute l'histoire de la science, en fait. Et c'est bien de remettre, si j'ose dire ce mauvais jeu de mots, les choses à plat, en parlant de la Terre ronde. Voilà. Mais merci, vraiment.
Non, mais je vais répondre à ça. La capacité à observer est fortement liée au fait qu'on réfléchisse ou pas. Et c'est vrai que quand vous regardez certaines mentions d'événements astronomiques par des érudits du Moyen-Âge, c'était des gens qui étaient forts, mais qui ne savaient pas observer, et ce qu'ils disent avoir vu dans le ciel, dans certains cas, impossible de savoir si c'est un phénomène atmosphérique ou astronomique, par exemple. Donc le fait de ne pas bien savoir observer, ça a toujours existé. Mais ce qui est frustrant aujourd'hui, c'est que a priori, on a tous les outils, on a on vit dans un pays suffisamment riche pour que l'ignorance recule, et on a cette frustration de voir que dans des pays pourtant bien armés en termes de budget pour l'éducation, il y a des gens qu'on laisse sur le côté. C'est triste, mais c'est comme ça.
Pour une dernière question, alors c'est la question un peu dure qui est posée par un internaute. Il y en a qui essayent de répondre, donc je ne sais pas si elle va t'inspirer. La question, c'est comment convaincre simplement un adepte de la Terre plate qu'il se trompe ?
Alors, c'est très difficile. Alors, j'ai jamais rencontré de platiste personnellement, mais j'ai rencontré des gens qui ne croyaient pas au Big Bang, qui ne croyaient pas qu'on était allé sur la Lune. Donc, je pense que les mécanismes sont pareils. C'est difficile parce que, moi j'aime bien appeler ça l'effet Harry Potter. Quand vous tombez dans le complotisme, vous avez une vie qui n'est pas forcément rigolote. Et un matin, vous vous réveillez avec la conviction que vous avez trouvé une réalité cachée, dans laquelle, en fait, il y a des gens super puissants et mal intentionnés qui vous désinforment, et vous qui êtes une sorte de résistant. Donc c'est très, très, très gratifiant, en fait. Quand vous adhérez à un truc complotiste, vous êtes une sorte de héros, une sorte de résistant. Et sortir du complotisme, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de super méchant, qu'il n'y a pas de super héros, vous êtes juste un super abruti. Et donc déjà, c'est extrêmement difficile de manger son chapeau, je ne sais pas comment le dire, et de se rendre compte, ah oui. Et c'est pour ça que c'est très difficile de parler à ces gens-là, parce que il ne faut pas arriver devant eux en leur disant « pauvre petite brebis égarée, laisse-moi t'expliquer ». Non, non, il faut que ce soit la personne qui soit d'accord pour en discuter, par exemple. Il ne faut pas qu'on soit trois autour d'une personne en disant « mais alors tu penses ça ?» Non, parce que la personne va... Quand vous êtes complotiste, vous savez que vous êtes minoritaire, et donc vous sentez d'autant plus agressé. Donc c'est très difficile de renouer le fil du dialogue, en fait. Et c'est pour ça que, en général, il faut le faire en tête à tête. Il ne faut pas être plusieurs scientifiques autour d'un platiste, par exemple. La personne va vite se braquer. Donc il faut dire, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et si la personne dit non, ce n'est même pas la peine de continuer, parce que ce n'est pas le moment. Et ensuite, la difficulté, c'est effectivement, nous allons échanger des arguments, mais est-ce que vous concevez le fait que, sur foi des arguments qu'on aura échangés, vous changiez d'avis? Est-ce que vous êtes d'accord que la règle du jeu, ce n'est pas un acte de foi contre un autre acte de foi, mais un échange d'arguments, et on essaie de réfléchir à quels arguments sont les plus convaincants. Et en fait, le complotisme, c'est souvent qu'au début, on s'imagine qu'on a démontré quelque chose, mais en fait, on vire rapidement vers la croyance, comme une croyance religieuse. Et sortir du complotisme, c'est avoir la lucidité de se dire « Ah oui, mais ce que je pense, en fait, maintenant je le crois plus que je n'en suis convaincu par des arguments rationnels. » Et donc la règle du jeu quand vous discutez avec des gens comme ça, c'est « Ok, est-ce que vous acceptez l'idée de changer d'avis ?» Si la personne dit « Non, non, rien ne me fera changer d'avis », bon ben voilà, c'est conviction personnelle contre conviction personnelle, et il faut faire prendre conscience à la personne que on n'est pas dans une démarche scientifique objective, où c'est la pertinence des arguments qui prime. Mais effectivement, des gens sont tellement, engloutis par ça que c'est difficile. Parce que quand vous...
Oui. Okay, bah merci. Je vous propose d'arrêter là. Merci à Audrey à la caméra, à Jean à la réalisation et à Alain pour la conférence. Et donc, nous nous retrouvons pour le premier mardi de septembre, le 6, où nous parlerons du soleil. Voilà, merci à tous. Bonsoir.